Chapitre 6 Les prisonniers de l'étang. Comme le roi ne remontait pas, j'ai d'abord cru qu'il s'était noyé. Amandine, toute tremblante, m'a expliqué que c'était beaucoup plus compliqué. Tout le monde avait mis pied à terre et fixé le point d'eau. En fait, la mare évoquait plutôt un marécage qu'un simple étang. Les abords en étaient tapissés d'une boue grisâtre aux reflets argentés. L'odeur qui s'en élevait était bizarre et ne ressemblait pas du tout à celle de la vase. Ça empestait le médicament. « C'est la boue d'éternité, » a soufflé Amandine. « C'est là depuis le début du monde. » Jadis, il y a très longtemps, les gens s'enduisaient le corps avec cette tourbe car elle a le pouvoir de suspendre le cours du temps. On racontait qu'ainsi on restait jeune pour l'éternité. Et puis ces pratiques ont été interdites. Une chose est sûre, tout ce qui tombe dans l'étang cesse de vieillir et entre en état de vie suspendue. On ne s'y noie pas, ai-je insisté. Non, la boue est magique. Elle vous attire au fond et on reste là pendant des siècles à flotter entre deux eaux. On dort, on rêve. Le temps passe, mais on ne prend pas une ride. Le roi ne va donc pas tenter de remonter par ses propres moyens, en nageant par exemple. Non, il doit déjà dormir. En outre, il est impossible de nager dans la Gadoue. Il dort? Oui, c'est le problème avec la boue d'éternité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on en a interdit l'usage en tant que produit de beauté. Les femmes qui s'embarbouillaient le visage sombraient dans le sommeil et ne se réveillaient plus. Je me suis approchée de l'étang pour m'agenouiller dans les roseaux. Sa surface argentée avait quelque chose de fascinant. C'était beau. Mon visage s'y reflétait. Je me suis rendu compte que les belles dames de la cour semblaient pareillement hypnotisées. Elles souriaient en fixant leur image, ayant déjà oublié la tragédie qui venait de se produire. « Ne reste pas là !» m'a ordonné Amandine. « Ces eaux sont maudites. Elles hypnotisent ceux qui se penchent au-dessus d'elles. Si tu continues à t'admirer, tu finiras par plonger. Viens !» Elle m'a pris la main pour me forcer à me relever. J'ai dû faire un effort pour rassembler mes idées. « Il faut rentrer au palais, » a commandé Zafar, « prendre conseil des savants. » Un duc a protesté. Il avait déjà ôté ses bottes et se préparait à plonger pour repêcher le roi. « Rhabillez-vous, » a sifflé le premier ministre. « Vous êtes ridicule. Vous savez bien que personne ne peut échapper à l'étreinte de la fange. Si vous plongiez, vous rejoindriez Sa Majesté dans le sommeil éternel au fond de ce trou de vase ensorcelé. Non, la seule solution, c'est de consulter les sages. En attendant, j'assurerai la régence du royaume. Ben voyons, ai-je pensé. Voilà donc où Zafar voulait en venir. Flore avait vu juste. La première partie de son plan était accomplie. Il venait de se débarrasser du roi, ni vu ni connu, je t'embrouille. À présent, il ne lui restait plus qu'à se défaire d'Amandine. Tout le monde est remonté à cheval pour rentrer au château. Certains courtisans échangeaient des sourires entendus. Ils n'étaient nullement dupes de la manœuvre du premier ministre, mais, ne tenant pas à se retrouver changé en bibelot de porcelaine, se gardaient bien d'élever la moindre protestation. Amandine était livide. Elle ne pleurait pas. Elle avait enfin compris qu'elle serait la prochaine victime de Zafar. Une fois revenus au palais, nous nous sommes rassemblés dans la grande galerie du rez-de-chaussée. Le premier ministre a fait mander les sages du royaume. Des vieillards à barbe blanche ont fini par apparaître en clopinant. On aurait dit des druides. Ils trimbalaient avec eux un nombre incroyable de grimoires et de parchemins jaunis. Le plus vieux d'entre eux a pris la parole pour décréter Les lois de l'étang ensorcelé sont les mêmes depuis le début du monde. Tout ce qui vient à y sombrer y reste englouti à jamais. Le prisonnier de la boue ne vieillit pas, ne meurt pas. Il reste intact, préservé des atteintes du temps. Nous savons tout cela, honorable vieillard, s'est impatienté Zafar. Je suis toutefois certain qu'il existe un moyen pour arracher aux profondeurs les malheureux qui y sont retenus. Les sages se sont mis à marmonner entre eux. On aurait dit le syndicat des Pères Noël débattant de la longueur réglementaire de la barbe de ses représentants. « Il existe bien une invocation, » a fini par admettre le vieux sage. « Mais elle présente des inconvénients. » Si on la prononce face à l'étang, elle a, dit-on, le pouvoir de provoquer la remontée du premier dormeur qui l'entend. Parfait, s'est enthousiasmé Zafar, jouant la comédie du soulagement. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Le vieillard s'est dandiné d'un pied sur l'autre. J'attire l'attention de votre Excellence sur le fait que l'on ne peut pas prévoir qui entendra le mot magique, a-t-il souligné. Cela signifie que l'invocation peut faire surgir n'importe qui ou n'importe quoi de l'étang. Cette poche de boue abrite des dizaines, que dis-je, des centaines de dormeurs. Elle retient prisonniers des individus engloutis il y a 1000 ans. Y avez-vous songé? Il faut bien tenter quelque chose, non ? A tranché Zafar d'un ton déjà moins cordial. Je ne laisserai pas mon souverain bien-aimé dormir pendant 1000 ans au fond de cette bauge. Préparez-vous à provoquer l'invocation de retour. Nous retournerons là-bas dès demain. De toute évidence, il ne croyait pas une seconde au pouvoir de la formule magique. Mais il lui fallait faire semblant, afin que le complot ne soit pas trop évident. Des héros, des messagers, furent dépêchés à travers le royaume pour apprendre au bon peuple la triste nouvelle. Et aussi, les efforts admirables accomplis par le premier ministre pour récupérer le souverain, coûte que coûte. « Pensez-vous que ça va marcher ? » ai-je demandé à Amandine lorsque nous nous sommes retrouvés seuls. « Non, » a-t-elle soupiré. « J'ai entendu parler de cette fameuse formule. » Elle est très difficile à proférer, car elle a été rédigée dans une langue ancienne, aujourd'hui oubliée. Si l'on se trompe dans la prononciation, elle reste sans effet. De plus, les sages disent vrai. Il y a beaucoup de gens au fond de l'étang. Des inconnus engloutis il y a de cela des milliers d'années, et qui sont pourtant toujours vivants, préservés de la mort par le pouvoir de la boue magique. L'incantation ne tombera pas forcément dans l'oreille de mon père. J'ai demandé, êtes-vous triste? Je ne sais pas, a avoué la princesse. Mon père ne m'a adressé la parole qu'une dizaine de fois depuis ma naissance et toujours lors de cérémonies officielles. En réalité, je ne le connais pas. Les familles royales ne fonctionnent pas comme celles du peuple. Les liens parents-enfants ne sont pas les mêmes. « Ce n'était pas un accident, » ai-je chuchoté. « Le loup-garou. » C'était celui que Flore a vu comploter avec Zafar pendant la nuit. Quand il a bondi sur le cheval, j'ai repéré la tache blanche entre ses oreilles. Il s'agissait d'un guet-apens. Dans le plan initial, le garou avait sans doute pour mission de tuer votre père. Mais les choses ont dérapé. Le roi a vidé les étriers et il est tombé dans l'étang. Ce n'était pas prévu au programme.
J'en ai conscience, mais ça revient au même.
Le roi restera prisonnier de la boue, et Zafar le sait. Voilà pourquoi il jubile intérieurement. Il a annoncé qu'il assurerait la régence. Combien de temps s'écoulera-t-il avant que vous ne montiez sur le trône pour remplacer votre père? 6 mois au maximum, car j'aurai 15 ans au mois de juin. Je serai donc alors en âge de régner.
Ce serait différent si j'avais 8 ou 9 ans. Zafar pourrait alors espérer s'installer un bon moment. J'ai fait la grimace. Soyons réalistes, ai-je grogné. Ça signifie qu'il dispose de 6 mois pour se débarrasser de vous et coiffer la couronne à votre place. Amandine a tapé du pied avec colère.
Je t'ai déjà dit que ça ne lui servirait à rien, a-t-elle explosé.
Il mourra à l'instant même où la couronne de fer entrerait en contact avec sa tête. Je n'ai pas cédé. À mon avis, il a trouvé le moyen de tourner cette difficulté, ai-je lâché. Je ne sais comment, mais s'il s'est débarrassé de votre père, c'est qu'il est sûr de son coup. Amandine s'est mise à bouder. En tant que princesse, elle n'avait pas l'habitude d'être contrariée. Nous n'avons plus dit grand-chose jusqu'au soir. Au cours de la nuit, j'ai encore une fois été réveillée par des battements d'ailes. J'ai bondi dans la chambre de la princesse, au moment même où une chauve-souris s'échappait par la fenêtre. J'ai couru au chevet d'Amandine pour vérifier qu'elle allait bien. Elle saignait d'une minuscule blessure à la gorge. Là où la chauve-souris vampire l'avait mordue. Je l'ai secouée pour la réveiller. Elle était à garde, comme sous l'effet d'une drogue. Elle n'a pas écouté un mot de mes explications. Au matin, quand j'ai voulu l'avertir des événements de la nuit, je me suis aperçue que la petite plaie avait déjà disparu. Il lui avait suffi de quelques heures pour cicatriser et devenir invisible. J'avais l'air d'une belle idiote. J'ai tout de même décidé de raconter ce que j'avais vu. Hélas, comme vous vous en doutez, le premier réflexe d'Amandine a été de toucher sa gorge. Elle n'y a rien trouvé, bien sûr. « Tu as rêvé », a-t-elle lâché un brin agacé. « J'ai assez de soucis. J'aimerais bien que tu n'en rajoutes pas. » Une chauve-souris vampire d'un genre particulier, ai-je songé. Sa morsure est indolore, ce qui a l'avantage de ne pas réveiller la victime. De plus, elle cicatrise très vite, ce qui efface les traces. Le crime parfait, quoi. Je n'ai pas insisté, mais je savais que j'avais raison. Quelque chose se tramait dans les ténèbres. En refusant d'admettre la vérité, Amandine ne me facilitait pas les choses. Une fois les cérémonies de l'habillement et du petit déjeuner expédiées, nous avons gagné la grande salle où les courtisans attendaient, dans un brouhaha de rumeurs chuchotées, les conclusions du conseil des sages qui avaient travaillé toute la nuit. L'assemblée des druides est enfin apparue, encore plus décrépite que la veille. Alors, maître Bézélius a clamé Zafar. « Avez-vous déniché la formule qui arrachera notre bien-aimé souverain à la boue de l'étang ?»«
Nous avons effectivement trouvé une incantation, très ancienne, » a grommelé le vieillard. « Mais nous ne sommes, ni les uns ni les autres, certains de savoir la prononcer comme il convient. »«
Il faut bien tenter quelque chose, n'est-ce pas ?» a lancé le premier ministre.
Au ton de sa voix, je devinais qu'il souriait à belles dents sous son masque de porcelaine. Il savait, de toute évidence, que la formule serait sans effet. Après quelques essais infructueux, il faudrait bien se résoudre à admettre que le roi Anagathos VI ne remonterait jamais des profondeurs marécageuses. Débuterait alors la procédure de succession visant à mettre Amandine sur le trône lors de son 15e anniversaire, car le royaume ne pouvait rester sans maître. Les palefreniers ont sorti les chevaux des écuries royales, et tout le monde a sauté en selle. Les vieillards, eux, sont grimpés à bord d'un carrosse. La procession s'est mise en branle en direction de l'étang maudit. Amandine avait l'air très fatiguée. À plusieurs reprises, ses paupières se sont fermées toutes seules, comme si elle allait s'endormir debout sur son cheval. Elle est affaiblie, ai-je pensé. Le sang que lui a volé la chauve-souris vampire lui fait défaut. Était-ce ainsi que Zafar comptait la tuer? Mine de rien, en ayant recours au service d'une chauve-souris domestiquée. C'était astucieux, en effet. Grâce à ce subterfuge, la princesse s'anémirait au fil des semaines, ses forces la quitteraient, bientôt elle serait contrainte de s'aliter. « Son Altesse souffre d'une maladie de langueur, » raconterait Zafar. « Les médecins du palais s'emploient à la guérir. » Mais les médecins resteraient impuissants, car le vampire reviendrait chaque nuit pour suivre sa besogne. En l'absence de plaies, de traces de morsures, il serait impossible d'établir un diagnostic. Zafar semblait au mieux avec les créatures des ténèbres. Il avait pactisé avec un garou pour se débarrasser du roi. À présent, il envoyait un vampire accomplir sa sale besogne. Un vampire d'un genre particulier, qui vidait ses victimes sans les réveiller et disparaissait sans laisser de traces. Le tueur idéal, quoi! Après avoir serpenté à travers la lande, nous avons atteint les temps maudits. Tout le monde a mis pied à terre et les sages se sont extirpés du carrosse avec des grimaces dues à leur rhumatisme. Zafar a réclamé le silence. L'un des vieillards, le nommé Bézélius, grand maître des sciences obscures, s'est prudemment approché de la rive, puis, levant les bras au ciel, il a chevroté le discours suivant. « Ô toi, Anagathos, le sixième du nom, notre souverain bien-aimé, nous te supplions d'entendre cette incantation qui t'arrachera à l'étreinte de la boue d'éternité et de remonter parmi nous afin d'assurer la bonne marche du royaume. Que ma voix te parvienne à travers les brumes du sommeil. Et toi, étant maudit, je t'ordonne de relâcher notre roi. Pour ce faire, je prononce la formule sacrée. Guv gaga fagia, mopo moi iurte, qua azaertiwaz, wurf kaja farata. Là, je transcris approximativement, parce qu'en vérité, ça ne ressemblait pas à des mots. On aurait plutôt dit le glapissement d'un animal qui se serait pris une patte dans un piège. Une minute s'est écoulée sans que rien ne se passe. Puis, des bulles ont crevé la surface des eaux épaisses. Des remous ont agité la gadoue, comme si quelqu'un essayait de nager au sein de la mélasse. Enfin, une tête a émergé. Tout le monde a crié « Oh !» Des épaules et deux bras ont suivi. La boue recouvrait complètement le roi, si bien qu'on ne distinguait pas ses traits. Il se cramponnait à un gros bâton dont il s'était peut-être servi pour remonter. Les ducs, les comtes, les barons, sans se soucier de tacher leurs beaux habits, se sont précipités pour l'aider à prendre pied sur la berge. « Qu'on apporte de l'eau !» a ordonné Zafar. « Il faut nettoyer sa majesté !» Des valets ont accouru avec des seaux. Ils ont entrepris d'asperger le roi. C'est là qu'il s'est passé un truc rigolo. Au fur et à mesure que la boue se délayait, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un Agathos VI, mais d'un jeune homme vêtu d'une peau de bête et qui tenait une massue à la main. Ce n'était pas le roi, mais un homme des cavernes. Un chasseur de mammouths, probablement. Tombé dans les temps, il y avait de cela des milliers d'années. Les courtisans, frappés de stupeur, ont reculé. L'homme des cavernes a grogné, s'est frotté les yeux et a levé sa massue. Il ne reconnaissait plus rien, le pauvre, et devait se demander qui étaient ces gens bizarrement accoutrés qui l'encerclaient. Déjà, les soldats de l'escorte tiraient leur épée pour le pourfendre. Le néandertalien a flairé le danger, car il a décampé ventre à terre. « Laissez-le !» a soupiré Zafar. « Ne perdons pas de temps avec cette créature insignifiante. Nous sommes là pour arracher notre roi bien-aimé à la prison de boue. » J'ai poussé un soupir de soulagement. Ça ne m'aurait pas plu qu'il fasse du mal au garçon préhistorique. Il m'avait fait l'effet
de ne pas être très âgé, et je lui ai trouvé une tête sympa. Quoiqu'il ressemblât un peu à un singe, mais bon, personne n'est parfait. Les savants vieillards se sont retirés à l'écart pour décider de la conduite à tenir. Ils avaient l'air vexés d'avoir raté leur premier essai. Cette fois, ils se sont tous alignés au bord de l'eau pour prononcer la formule magique en chœur. Ça a provoqué un énorme remous au fond de l'étang et quelque chose d'énorme a pointé la tête hors de la bouillasse. Vous savez quoi? Un dinosaure! Inutile de vous dire que tout le monde a décampé au triple galop. Le dinosaure est resté planté près de l'étang, hébété, secouant son long cou, se demandant lui aussi pourquoi le paysage avait tellement changé. Je suppose qu'en des temps reculés, il avait commis l'erreur de plonger dans la mare pour prendre un bain, et que la magie des eaux l'avait endormi. Ensuite, il avait coulé tout au fond, indifférent au passage des siècles. Là, je vais abréger, parce que ça deviendrait fastidieux. Sachez seulement que les sages ont fait d'autres tentatives. Chaque fois, ils ont réveillé un animal ou un berger, victime de pouvoir des eaux argentées. Le dinosaure, lui, est parti se cacher dans la forêt. On ne l'a plus revu. L'homme des cavernes a dû faire la même chose. Au cinquième échec, les sages se sont présentés devant Zafar, soucieux. Le plus vieux d'entre eux, Maître Bézélius, a déclaré « Votre Excellence, nous avons fait beaucoup de recherches à la bibliothèque du palais. En vain. Une chose est sûre, la formule que nous avons utilisée n'est pas assez puissante pour arracher un roi à l'étreinte de la fange. Il en faut une autre, plus ancienne encore, plus impérieuse, mais que nous ne connaissons pas. » Zafar allait prendre la parole, mais le vieillard ne lui en laissa pas le temps. « Il existe toutefois un moyen de se la procurer, » a-t-il poursuivi devant les courtisans rassemblés. « Il faudrait que son Altesse royale, la princesse Amandine, se rende au pays des sortilèges pour consulter l'oracle des sirènes. » Un murmure d'effroi a empli la salle. Les sirènes connaissent toutes les formules magiques en usage dans le monde, a expliqué Bézélius. Moyennant une offrande de choix, elles accepteront peut-être de révéler à la princesse celle dont nous avons besoin. Hum, a fait Zafar. Ces sirènes ont très mauvaise réputation, il me semble. On les dit sournoises, adorant tendre des pièges aux humains pour les attirer dans les flots. La princesse ne peut envisager de courir un tel risque. En tant que fille, elle n'est guère capable de se lancer ainsi à l'aventure. Elle ne saurait comment se comporter en face du danger. Amandine a fait claquer son éventail pour manifester son mécontentement. Elle s'est avancée d'un pas résolu au milieu du cercle des courtisans. Le souci que son Excellence le Premier ministre a de ma santé m'honore, a-t-elle lancé. Mais je ne suis pas en sucre. Parle, vieil homme. Je veux tout savoir. J'irai chez les sirènes si cela peut sauver mon père. Zafar n'a rien dit, mais j'avais la conviction qu'il souriait sous son masque. Amandine venait de tomber la tête la première dans le piège qu'il lui avait tendu. En la provoquant, il l'avait amenée exactement là où il le souhaitait. Ce voyage au pays des sortilèges sera très dangereux, ai-je pensé. Et si Amandine disparaît au cours de sa quête, personne ne pourra accuser Zafar de l'avoir poussée dans la gueule du loup, puisque, au contraire, il a apparemment tout fait pour l'en dissuader. Les courtisans en témoigneront.